Bonsoir mes frères et sœurs ou chers amis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser des questions sur le bonheur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver à 3 ou 4 amis et dire mais qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Et regardez dans le psaume 4, verset 7, David doit certainement parler avec des amis, des copains. Est-ce que David a eu des copains? Bien sûr que David avait des copains, des personnes avec qui il s'entretenait de certains sujets. Donc au psaume 4, au verset 7, puisque il se fait le porte-parole de plusieurs, puisque le psaume 4, verset 7 dit « plusieurs disent ». Vous y êtes ? Psaume 4, verset 7. « Plusieurs disent qui nous fera voir ?» Le bonheur. Donc il se fait le porte-parole de plusieurs amis avec qui ils ont eu bien discuté. Peut-être qu'ils ont passé l'après-midi à discuter, mais qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Et puis Dieu a voulu quand même que cette question soit dans sa parole pour que nous puissions y réfléchir. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous ta lumière, la lumière de ta face, ô Éternel. Alors regardez bien le témoignage de David. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leur froment et leur moût. Voilà le témoignage de David. Cet homme a vécu le bonheur. Cet homme, malgré le fait que là, dans le psaume 4, il pose la question « Qui nous fera voir le bonheur ?» Il exprime. Il exprime à plusieurs reprises « Qu'est-ce que c'est le bonheur ?» C'est vrai que ça pourrait être l'objet d'un débat avec la jeunesse. Les gens sont préoccupés par le bonheur. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens veulent être heureux? D'après vous, est-ce que partout, tout le temps, les gens ont voulu être heureux? Oui. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous voulez savoir comment on obtient le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Si vous deviez mettre sur un papier la définition du bonheur, ne le dites peut-être pas autrement, mais qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que, pour certains, être comblé au niveau matériel? Est-ce que c'est bien d'être comblé au niveau matériel? Allez, posons de bonnes questions. Est-ce que c'est bien d'être comblé au niveau matériel? D'accord. Est-ce que c'est bien d'être comblé sur le plan sentimental? Est-ce que c'est bien de réussir sur le plan professionnel? Est-ce que c'est bien de réussir professionnellement? Lucas, quand même, ce serait bien que tu discutes avec les élèves. David a eu toutes ces choses, il les avait. Et pourtant, il a quand même posé la question. Alors, moi j'aimerais vous dire, je crois qu'il y a du bonheur à avoir ces choses-là. Je pense qu'il y a un proverbe, un dicton qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce dicton? Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça me dit, ouais, on est chrétien. L'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'il faut être honnête. Quand on est chrétien, il ne faut pas au nom de la spiritualité. Parce que personne ne pourra dire que si on est heureux sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, personne ne peut dire que ces choses-là ne contribuent pas au bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout que c'est quand même la volonté de Dieu. Mais j'aimerais quand même ce soir que nous voyons ce que David a dit sur le bonheur, car il parle à plusieurs reprises du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Alors c'est vrai que toutes ces choses-là ne sont pas négligeables, mais elles ne suffisent pas à rendre un homme heureux. Alors on va lire quatre textes, enfin on va en lire plusieurs, mais quatre points qui font que vraiment un homme peut être véritablement heureux. Alors dans le psaume 34, ce sont des textes qu'on pourrait après en réunion de jeunesse partager. Dans le psaume 34, au verset 9, qu'est-ce qui est dit? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Donc, s'il a dit ça, c'est David qui le dit, s'il a dit cela, c'est qu'il a vécu, parce que des fois on chante des beaux cantiques, on lit des psaumes, mais c'est pas pour ça qu'on le vit. Mais si David dit « heureux l'homme qui cherche en lui son refuge », il l'a vraiment vécu, c'est quelque chose qu'il a expérimenté. Il dit cela, si vous avez vu, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimalek et qu'il s'en alla chasser par lui, l'introduction du psaume, il était en train de fuir. Et il s'est rendu compte que de fuir, ça ne réglait pas la situation. Ça ne réglait pas la situation, parce que bon, il a compris que le refuge qu'il choisissait n'était pas le bon. Et il va chercher son refuge en Dieu. Alors on pourrait prendre plein de textes, j'en ai marqué un paquet. Quand il a dit « ne le cherchez pas », psaume 40, verset 5, « heureux l'homme qui place à l'Éternel la confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains. » Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il est parlé du bonheur, il y a l'association de la foi et le bonheur. Le bonheur vient par le fait que la foi le procure vraiment. Est-ce que vous savez vous reposer sur Dieu? Parce que c'est une chose d'aller à l'église, c'est clair. C'est une chose de chanter de beaux cantiques. Mais est-ce que je sais ce que c'est que de me reposer sur Dieu? Prier, je peux prier. Il y a des gens qui prient, oui, je prie, ça ne sert à rien. Bon, c'est clair que là, quand on arrive à dire des trucs pareils, c'est que c'est religieux, mais ce n'est pas du tout spirituel. Quelqu'un qui sait vraiment prier, qui croit vraiment à la prière, apprend à se reposer sur Dieu. La foi, c'est se reposer en Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, la foi est liée au repos. La foi est liée à la confiance. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous voyez, c'est une chose d'aller à l'église, c'en est une autre de se confier vraiment dans le Seigneur. La foi, c'est se décharger sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de lui. Alors on pourrait multiplier tous les synonymes. Quand il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est une façon de se confier en Dieu. Vous voyez, le bonheur que procure véritablement la foi, c'est s'abandonner à Dieu. Psaume 131, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Donc la foi contribue vraiment au bonheur. Et si vous regardez ces textes, j'en ai d'autres, je ne les prendrai pas tous, mais vous remarquerez que chaque fois qu'on se repose, qu'on se décharge, qu'on se confie, qu'on s'en remet à Dieu, qu'on s'attend à Dieu, etc., il y a cette notion du bonheur. Et David a trouvé le bonheur dans une véritable foi. Oui, le bonheur existe par la véritable foi. Et la question que je peux nous poser à nous qui sommes ici ce soir, Dieu est-il notre refuge? Voilà. Est-ce que vous dites, oui, moi j'ai foi dans le Seigneur? Eh bien, heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Mais que serait la foi sans la grâce de Dieu? Parce que c'est bien joli d'avoir confiance à Dieu, mais que serait la confiance si la grâce de Dieu n'existait pas? Alors dans le psaume 23, il y a une autre affirmation de David. C'est une affirmation qui vaut quand même la peine d'être vécue. Qui ne connaît pas le psaume 23? Combien de gens me disent, moi le psaume 23, je le connais par cœur. Et puis quand on discute avec eux, moi je dis, vous êtes sûr que vous le connaissez par cœur? Parce que les gens ne le vivent pas. Mais on peut c'est la preuve qu'on peut s'égarer. Psaume 23, verset 6. Regardez le témoignage de David. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie ». Il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Quelle bénédiction! Alors, il a eu le bonheur de mettre sa confiance en Dieu, mais il a eu le bonheur surtout de voir que la grâce de Dieu l'a accompagné tous les jours de sa vie. Parce que sans la grâce de Dieu, il n'y a pas de bonheur possible. C'est pour ça que les gens sont malheureux. C'est pour ça que presque tous les gens sont malheureux. Parce que sans la grâce de Dieu, ce n'est pas possible. À quoi servirait la foi s'il n'y avait pas la grâce de Dieu? Réfléchissez bien. La confiance en Dieu, elle n'est possible que s'il y a un Dieu qui donne véritablement la grâce. Vous avez vu le verset, il commence par « oui ». Et c'est important ce petit mot, parce qu'il pourrait ne pas y être écrit. Mais il a cette assurance « oui ». Si la grâce de Dieu n'existait pas, eh bien ça commencerait par « non ». On dirait « non, non, parce que non, la grâce de Dieu, parce que je ne la mérite pas ». Qui mérite la grâce de Dieu ici? Personne. Hein? Ouais. Non, non, ça serait toujours non. Non, je ne mérite pas la grâce de Dieu parce que je suis un pécheur. Non, je ne mérite pas la grâce de Dieu parce que j'ai fait ceci, parce que je n'ai pas été digne. Non, parce que j'ai fait des efforts, mais ça ne servait à rien, etc., etc. Mais si Dieu dit oui, ça veut dire que si nous passons par sa grâce, on peut dire oui. C'est important. La grâce est opposée dans la Bible toujours à la loi. La loi, elle est venue par qui? Par Moïse. Et la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. La loi, est-ce qu'on ne l'a pas tous enfreint, la loi? Est-ce qu'on n'est pas tous condamnés par la loi? Si, on est tous condamnés. Parce que la loi, quand vous lisez la loi, ça révèle votre péché. Tandis que la grâce révèle ce que Dieu est capable de faire, que Jésus a tout payé sur le bois de la croix. C'est important. Est-ce que vous êtes heureux que vos péchés soient pardonnés? Eh oui, c'est comment? Par la grâce. Hein? Comment Dieu peut nous bénir? Comment Dieu peut nous pardonner? Comment Dieu peut nous secourir alors qu'on ne mérite rien? Tout ça, c'est par grâce. Et David témoigne toute sa vie que le bonheur, il a vécu le bonheur parce que la grâce de Dieu l'a accompagné. Et en plus, il en parle, vous avez au futur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous savez, ça, c'est une grande bénédiction. Parce qu'il y a des gens, ils vous parlent de la grâce. Oui, il y a 30 ans, Dieu m'a béni, mais ils ne parlent pas de la grâce au futur. Ils en parlent au passé. Alors, c'est bien déjà dans le passé d'avoir vécu la grâce de Dieu. Et j'espère que c'est une expérience que vous déjà vous pouvez dire. Oui, dans le passé, j'ai déjà vécu ça, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a, je ne sais pas. Mais pouvoir parler de la grâce au futur, je peux vous dire, vous connaissez vraiment ce qu'est la grâce de Dieu. Croyez-moi, ça n'a rien à voir. Il ne dit pas « la grâce m'a accompagné et maintenant, ce n'est pas facile ». La vie de David. Quel a été le premier exploit de David? Parce que tout le monde va dire « oui, le premier exploit de David, il a tué Goliath ». Bon, c'est sûr que c'est quand même un des premiers exploits. Mais quand même, c'est vrai que quand même, il est dit qu'il avait, il a arraché la brebis de la gueule de l'ours ou du lion. Alors quelqu'un a dit « oui, en Israël, les lions, ils sont petits ». Bon, je l'ai entendu ça. Bon, enfin, quand même, un petit lion, c'est quand même... C'est qu'il fallait le faire. Et il a fait quand même une expérience extraordinaire. Comment est-ce possible? Un jeune homme, un ado, c'était un ado. Un ado qui a détruit un professionnel de la guerre, 3 mètres de haut, je ne vous dis pas la carcasse que ça devait représenter, ça devait être impressionnant. Comment il a pu faire cela? Comment il a pu faire cela? Moi, je crois que c'est par la grâce de Dieu. Comment vous le voyez autrement, vous, hein? Comment il a pu viser juste avec sa pierre, là, hein? Juste dans le front, parce qu'il était armé. Quand vous regardez comment il était armé, il ne fallait pas se louper, je vous le dis. Comment il a pu viser juste? Par la grâce de Dieu. Comment il a pu rester humble après? Parce que c'était une chose que Dieu vous bénisse, mais ça n'est une autre de rester humble après. Après la victoire. La grâce de Dieu l'a accompagné. Il témoigne dans ce texte tous les jours de sa vie. Mais la grâce de Dieu, c'est pas que quand on a que des victoires. Parce que David, si vous connaissez sa vie, il n'a pas eu que des victoires. Il a eu aussi des échecs. Et la grâce, elle ne l'a pas accompagné que quand il avait des victoires. Il faut, parce que la grâce, on a vite fait de dire, voilà, il a fait ceci, il a fait des exploits. Mais moi, je crois que la grâce de Dieu l'a accompagné dans ses défaites. Regardez dans le psaume 32. C'est important ça, parce que c'est vraiment être malsain. C'est comme tout à l'heure quand on disait, oui, l'argent, la réussite, c'est secondaire. Oui, c'est secondaire, mais quand même, ça c'est bien. Dans le psaume 32, regardez, qu'est-ce qu'il dit au verset 1er et au verset 2? Heureux, il ne dit pas celui qui raccourcit les géants. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Heureux, oui, cet homme qui a reçu le pardon. David a été un homme vaillant, qui a fait des exploits, mais il a fait aussi des choses terribles, David. Il a fait même tuer un de ses amis. Vous vous rappelez cette affaire? C'est pas terrible, ça? Alors là, on est loin de tuer Goliath, c'était bien. Mais tuer un de ses amis, c'était peut-être pas bien. Il a commis des choses sanguinaires. David, il a fait des choses. Et franchement, quand on voit ce qu'il a fait, on pourrait dire, mais quand même, qu'est-ce qu'il a écrit? Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Moi, ça me fait bien fou, ça. De savoir qu'il a écrit ces choses. Quand il a tué, comment il s'appelle? Uri. Qu'est-ce qu'il méritait? Lui. Il méritait la mort. Il méritait la lapidation. Il méritait le jugement de Dieu. Alors pourquoi Saül a été jugé? Et pourquoi le roi Saül? Et pourquoi lui n'a pas été jugé? C'est quand même des questions qu'on peut se poser si on est honnête. On peut dire, tiens, Dieu fait du favoritisme. Il y a un roi qui a payé cher et pourtant c'était moins grave. C'est bien moins grave. Moi, j'aurais préféré commettre le péché de Saül, croyez-moi, que le péché de David. Et Saül a été condamné et David n'a pas été jugé. Tiens donc, comment ça se fait? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est parce qu'au moment où David a été confronté à son péché, il l'a reconnu. Et il s'est humilié. Et d'ailleurs, c'est écrit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et quand on accepte de dire « oui, je suis cet homme-là, c'est moi qui ai péché ». D'ailleurs, il le dit dans le psaume 51, « si tu me juges, tu seras juste dans ton jugement. » Et c'est pour ça qu'il a connu le bonheur. Parce que vous savez, il était roi, il aurait pu chercher des circonstances atténuantes. Quand on commet des échecs, des péchés, des fautes, comment on réagit? Comment, ça vous arrive de commettre des péchés? Est-ce que oui, tu comprends, c'est pas facile, les circonstances. Ou moi, j'ai des circonstances atténuantes par rapport à ce que je traverse. Vous savez, il aurait pu accuser la femme. Est-ce qu'il aurait pu accuser la femme? Ouais, se baigner toute nue hein, sur la terrasse, franchement, c'est elle. Est-ce que on peut toujours excuser? Oh, j'étais fatigué. Oui, ça, je l'ai souvent entendu. Ah ouais, tu comprends pas, j'étais fatigué. Il aurait pu accuser. Est-ce qu'il aurait pu accuser le diable? Est-ce qu'il aurait, là aussi, il y a des gens, des chrétiens. Croyez-moi que le diable, à des moments, il a bon dos, je vous le dis. C'est le diable, vous comprenez, il m'a tenté, c'est le diable, etc. Non. S'il avait cherché des excuses, il n'aurait pas eu part à la grâce et au pardon. Et c'est ça qui est merveilleux quand on est capable de dire, oui, j'ai péché. Oui, je me suis trompé. Et c'est pour ça que Dieu l'a béni. Et c'est pour ça que, exploit ou échec, cet homme a été capable d'écrire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et que Dieu nous accorde sa bonté, que Dieu nous accorde l'intelligence de dire oui, je suis un pécheur. Et je sais que sans la grâce, je suis un homme perdu. Si je peux faire quelque exploit, béni soit le Seigneur, ça sera un effet de sa grâce. Mais si je commets des péchés, eh bien je recourirai à la grâce de Dieu parce que j'en ai besoin. On en a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que David a eu part à la grâce de Dieu. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas, il lit la Bible, il dit oui, Dieu, c'est pas possible, Dieu fait des différences. Non, la grâce l'a accompagné tous les jours de sa vie. C'est pour ça qu'il a été heureux. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut vraiment? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous voulez continuer à recevoir la grâce de Dieu? Eh bien, restez dépendant vraiment de ce Seigneur Jésus. Le bonheur par la foi, parce qu'il a eu confiance en Dieu. Le bonheur par la grâce. Troisièmement, dans le psaume 25, c'est toujours David qui parle, puisqu'il avait posé la question, et bien c'est lui qui répond. Psaume 25, versets 12 à 14. Un autre élément qui permet d'avoir le bonheur. Parce que ça ne te trompe pas, croyez-moi. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire qui respecte l'Éternel, c'est pas qui a peur de Dieu. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Voilà, son âme reposera dans le bonheur. Donc il y a une catégorie de personnes qui peut estimer être heureuse, c'est l'homme qui craint l'Éternel, l'homme qui respecte la parole de Dieu. Le bonheur par rapport à la direction divine, être capable de dire, oui, je veux que ce soit Dieu qui conduise ma vie. Voilà. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Bien sûr que Dieu ne choisit pas pour nous. Est-ce que Dieu choisit pour nous? Si vous allez au restaurant tout à l'heure, est-ce que le Seigneur, est-ce que je prends du foie gras? Est-ce que je prends des gésiers? Est-ce que Dieu va vous dire ce que vous devez manger? Bon, j'extrapole. Mais c'est pour vous expliquer que Dieu nous montre ce que l'on a, pas pour la nourriture, mais pour bien des choses, Dieu nous montre ce qui est bien dans la Bible. Voyez, Dieu a montré à David ce qu'il devait faire, parce qu'il y avait la crainte de Dieu dans son cœur, malgré le péché grave qu'il avait commis. Eh bien, même si Dieu ne choisit pas pour nous, il va nous montrer, parce que Dieu fait de nous des gens responsables. Moi, quand je vois des gens qui deviennent mystiques par rapport à la volonté de Dieu, j'attends que Dieu me montre vraiment si je dois choisir cette jeune fille. Écoutez, je crois qu'il faut être un peu plus sérieux que ça. Le Seigneur, il donne des repères. Il y a des choses qui sont logiques. La paix, la paix intérieure, c'est pas un signe, ça? Hein? Bon, ne parlons pas de tout ça. Il lui montre la voie. Est-ce que vous voulez être heureux? Vous voulez être heureux? Eh bien, laissez le Seigneur vous conduire au travers de sa parole. On le voit dans plusieurs textes dans la Bible. David consulta l'Éternel. On le voit parce qu'il y avait des décisions très 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 importantes à prendre. Et je crois que la Bible, c'est un livre de conseils. Je le disais tout à l'heure, l'Éternel, mon conseiller. Paul dira aux chrétiens, je ne sais plus, c'est dans les Actes qu'il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on est confronté à plein de conseils. C'est un petit peu le cas ce soir. On a des conseils qui nous permettent de dire, ah mais c'est vrai, à moi ces bases, je les veux. Parce que je veux être heureux. C'est la volonté de Dieu que vous soyez heureux. Est-ce qu'on voit dans la Bible que Dieu veut que l'homme soit heureux? Et bien sûr. Hein? Consultez Dieu. Quand on cherche dans la Bible, hein, ce qui peut être bien, ce qui peut être bien. Quand on voit, je ne vais pas prendre des exemples, parce qu'il y en a tellement, mais je prends l'exemple juste du conjoint. Un conjoint. Est-ce que c'est important de choisir un conjoint? Est-ce que c'est important un conjoint? Eh bien oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne te mets pas avec un infidèle. Voilà. Combien de gens m'ont dit, mais monsieur, vous ne vous inquiétez pas, moi je la changerai. Je la changerai, ou je le changerai. Moi, j'ai dit, écoutez, on arrive tout juste à se changer soi-même. Vous pensez changer quelqu'un? Enfin, est-ce que vous trouvez que c'est facile de vous changer, vous? Soyons honnêtes. Et on croit qu'on va changer quelqu'un. Mais je crois qu'on rêve, vraiment. Et voyez, moi, je pense que les choses, elles doivent être faites au début. Et ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Et quand je vois toutes les jeunes filles qui vont dire, mais monsieur Gros, moi je le changerai, j'ai la foi. Mais la foi, vous voyez, ça c'est pas la foi. C'est pas la foi, ça. Ça c'est la bêtise, ça. Carrément. Et je vous assure que c'est vrai. Si vous faites ce que la Bible vous conseille, vous serez heureux. Ouais. Dans le psaume 25, on le voit, on peut lire le verset 8, vous voyez, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. C'est le psaume 25. On voit bien que le bonheur dépend de cette façon dont on écoute les conseils de Dieu. Moi, je suis archi bien placé pour savoir qu'il y a des chrétiens qui ont le souci de comprendre les conseils. Il y a des chrétiens qui n'en ont rien à faire. Ils font à leur guise parce qu'ils pensent, eux, ne pas se tromper. Et quatrièmement, c'est quoi le bonheur? Alors dans le psaume 65, on voit dans le psaume 65, verset 5, une autre notion du bonheur. Une autre notion du bonheur. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Je répète, c'est un psaume, vous le voyez au début, c'est un psaume de David. Le bonheur du fait de dépendre de Dieu qui nous conduira dans sa maison. Est-ce qu'on est bien dans sa maison? Est-ce que vous aimez vous retrouver dans sa maison? Est-ce que vous aimez vous retrouver pour servir, pour apprendre, pour louer, pour prier, comme on le vit dans nos réunions différentes, pour partager ce soir la parole de Dieu et comprendre qu'il y a quand même des réponses dans la parole de Dieu et que nous ne pouvons pas nous arrêter juste aux biens matériels, aux valeurs sentimentales, qui sont des bénédictions infinies. De réussir sa vie professionnelle, c'est un bienfait. Moi, je dis à tous les jeunes, mais purée, bossez, bûchez, apprenez, ayez un bon métier, que vous puissiez vous réjouir dans votre vie de tous les jours. Ce n'est pas un péché. Mais là, David, qui a tout connu, exprime vraiment ce qu'est le bonheur. Le bonheur était fondé sur le fait qu'il était fidèle à la maison de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, aller dans une église, bon, c'est une chose. Mais être fidèle à la maison de Dieu, dire, voilà, moi je veux être fidèle. On le relit ce texte, vous voyez? Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur, vous voyez, du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. C'est important, goûter au bonheur de la présence de Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, je sais qu'il y a un problème avec ça. Ils font leur culte personnel pour faire le culte personnel. Et puis il y a certains qui réalisent, mais le Seigneur il est là. Là, on est là ensemble, mais Dieu est là. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un? Vous savez, mardi matin, je priais, je passais un moment dans la prière, et je pensais à une dame que je n'ai pas vue depuis un an. C'est une dame que j'aime bien, qui venait, et puis tu l'appelles pas. Alors, je dis, tu l'appelles pas, Seigneur, je te fais confiance, s'il te plaît, attire-la dans ta maison. Et quand je n'ai pas fait gaffe, mais quand j'ai salué les gens, elle est sortie en pleurant. Elle m'a dit, il fallait que je revienne dans la maison du Seigneur. Pour moi, c'est un exaucement, bien sûr. C'est une victoire également, parce que quand quelqu'un vient à l'église, c'est quand même une victoire. Mais David avait appris. Vous voyez, le jour, je ne sais pas quand est-ce qu'il a posé la question à ses amis, qui nous fera avoir le bonheur, c'est quand même... Est-ce qu'il était roi quand il a écrit ce psaume? Voilà, parce que quand on est roi, on pourrait dire, est-ce que tout le monde sera roi? À l'épiphanie, on peut l'être, je veux dire, on a la couronne. Mais à part l'épiphanie, le début janvier, bon, il a eu quand même le bonheur d'être roi. Oui ou non, hein? Est-ce qu'il a été riche, David? Quand on voit l'argent qu'il a donné pour la construction du temple, laissez-moi vous dire qu'il avait des sous de côté. Hein? Bon, est-ce qu'il avait un palais? Est-ce qu'il a eu un palais? Est-ce que c'est bien d'avoir un palais? Est-ce qu'il avait des serviteurs? Est-ce qu'il avait... Je ne parle pas du ménage, je parle du palais. Est-ce qu'il a remporté des batailles? On pourrait voir tout ce que David a pu faire. Mais il n'a pas été heureux pour ces choses. Il l'exprime bien. Et c'est bien que ce soit lui qui le dise. Je pense qu'il y a des choses, c'est bien que si Dieu permet qu'on les ait, c'est bien. Mais il a été heureux, cet homme, parce qu'il a vraiment goûté ce qu'était une véritable foi. Et je pense que si nous étions soucieux de dire, mais moi aussi je veux ce bonheur, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, il le donne à chacun. Mais n'importe qui d'entre nous qui avons choisi ce soir justement de venir dans sa maison et qui voulons être heureux, dire, mais moi je veux pareil. Je veux pareil, je veux avoir une véritable foi, puisque la Bible dit que heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Je veux vraiment que Dieu soit mon refuge, pas le jeudi soir ou le dimanche matin, mais tous les jours et tous les moments de ma vie. Je veux connaître la grâce au futur, parce que j'y reviens. Mais quand même, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être considéré, parce que si vous pensez qu'à la grâce au passé, ce n'est pas la vraie grâce. La grâce, elle est tous les jours. Jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier jour, quelles que soient vos erreurs, quels que soient vos échecs. C'est vrai que David aurait eu que des louanges et des victoires. On aurait pu dire, ben ouais, c'est normal qu'il ait écrit, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Non, la grâce, ça veut dire qu'on ne mérite rien. Et que si Dieu nous demande quelque chose, c'est d'être vrai et c'est d'être honnête. David a été heureux ben parce qu'il s'est laissé guider. Tout roi qu'il était, il aurait pu dire, ben attends, je... Toi, roi dans le ciel, de ton côté, moi, roi sur la terre, du mien. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Dieu de son côté, c'est bien. C'est bien. J'y crois, mais qu'il fasse son truc, moi je fais le mien. David a été heureux parce qu'il s'est laissé guider. Et si vous vous laissez guider, vous serez heureux. Ça vaut la peine, quelles que soient nos années de conversion, de dire « je veux que Dieu me guide ». Vous êtes prêt à le dire, Seigneur, je ferai ce que tu, j'irai où tu voudras. C'est bien si vous êtes capable de le faire. Oui. Et il a été heureux, pas parce qu'il avait un palais, mais parce qu'il vivait vraiment dans la présence de Dieu. D'ailleurs, si vous connaissez vraiment David, vous savez combien il a été heureux de vivre dans la présence de Dieu. Quand il était berger, quand il était roi, il n'était pas impressionné par le titre, par son titre de roi, il était... impressionné par la fidélité du Seigneur. Alors, béni soit Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, béni soit le Seigneur pour tout ce qui est affectif. On en a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'affection? On a besoin d'affection des uns des autres, mais on a besoin aussi de l'amour du Seigneur. Et David connaissait ces choses. Et cette question, on le voit plus loin. On pourrait lire dans Romains pour terminer, parce qu'il y en a des textes. Il nous a encore parlé de lui. Vous voyez, dans Romains au chapitre 4, pour terminer. Mais c'est quand même écrit. Quand on met ces textes ensemble, on se dit, mais quand même, Dieu a voulu que l'on sache comment un homme pouvait véritablement obtenir le bonheur. Romains 4, verset 6, regardez bien. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Après, vous voyez, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Quand vous lisez la suite, vous voyez bien que ce bonheur, il est pour tout le monde. David exprime le bonheur, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, que par la foi, la grâce, l'intelligence de se laisser conduire et le plaisir de nous retrouver dans sa maison, eh bien, nous puissions exprimer le bonheur. Car je crois que dans ce monde complètement pervers, corrompu, malade, détraqué, enténébré, je crois que les chrétiens peuvent avoir la grâce d'exprimer eux aussi le bonheur de ces quatre piliers que l'on vient de partager ensemble. Tout ça pourquoi et comment? Surtout parce que Jésus sur la croix a vraiment accompli. Vous croyez que Jésus a tout accompli pour que l'on soit heureux? Vraiment. Moi quand je lis ces versets, c'est simple. Je ne pouvais pas faire plus simple comme prédication. Franchement, je pense que c'est simple. Et je crois que Dieu veut qu'on soit simple. Vous voyez, la foi, la grâce... le bonheur d'être conduit, d'accepter d'être conduit, quelle que soit notre position, et le bonheur de dire dans ta maison, Seigneur, moi j'y prendrai du plaisir. J'irai retrouver mes frères, j'irai retrouver mes sœurs, mais j'irai surtout te retrouver parce que j'ai besoin de ta pensée. Peut-être que ce soir, Dieu voulait vraiment parler à quelqu'un sur le bonheur. Est-ce que Dieu s'intéresse à notre bonheur? Ah ouais, bien sûr que Dieu s'intéresse à notre bonheur. Et comment? J'aimerais, moi, que tous les Toulousains entendent entendre des prédications sur le bonheur, le véritable bonheur. Vous n'aimeriez pas hein, que tous les Toulousains entendent une prédication sur le bonheur, car je suis convaincu que c'est la vérité. Alors on va fermer les yeux quelques instants et on va le remercier, vraiment le remercier pour cette grâce qu'il nous a laissée dans sa parole, tant d'enseignements. Seigneur Jésus, oui, nous aussi nous voulons le bonheur, parce que je crois que tu as créé les hommes pour qu'ils soient véritablement heureux. Et si tu nous parles du bonheur dans ta parole, nous le croyons, c'est parce que tu veux l'accorder aux hommes. Seigneur, donne-nous la même attitude de cœur que David. Seigneur, de savoir, d'avoir cette foi vivante, de vivre la grâce dans le futur, dans nos échecs, comme dans nos exploits. Vraiment, Seigneur, nous croyons, oui, que la grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie. Enseigne-nous à être conduits par toi. Enseigne-nous, Seigneur, à aimer ta maison, que ce soit un plaisir de nous retrouver avec des frères et des sœurs pour t'écouter, pour te louer, pour te servir, pour t'honorer d'une façon ou d'une autre. Seigneur, que ton nom soit béni. Garde nos yeux fixés sur toi, oui. Donne-nous la joie d'avoir ce véritable bonheur qu'on ne peut obtenir qu'en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.